Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de À propos. Après avoir été absent du bureau pendant presque 3 mois pour me remettre de mon opération du cœur, je suis de retour au travail depuis 2 semaines maintenant. Et à présent, je suis certain que, comme vous tous, mon épouse et moi finalisons nos préparatifs pour la fête des tabernacles. Le 1er octobre, nous prendrons l'avion pour Fort Myers, en Floride, où nous observerons la fête des expiations avec les frères et sœurs de cette région. Ensuite, le vendredi 3 octobre, nous irons en voiture à Saint-Pétersbourg pour observer le sabbat le 4 octobre là-bas avec les frères et sœurs. Puis, le dimanche 5 octobre, nous retournerons à Fort Myers pour commencer la fête le lundi soir, 6 octobre. Et pendant la fête, le mercredi 8 octobre, nous retournerons à Dallas, puis nous irons à Myrtle Beach. En préparant nos plans de voyage, nous avons découvert qu'il n'y a pas de vol direct de Fort Myers à Myrtle Beach. Il faut soit prendre une correspondance à Charlotte, soit en prendre une à Dallas. Nous avons donc choisi Dallas. Ceci sera donc notre dernière émission de À propos avant la fête des tabernacles. Le prochain programme ne sera publié que le jeudi soir, 23 octobre, soit dans environ 1 mois. Mais avant d'aborder les sujets du jour, j'aimerais vous donner des nouvelles concernant ma santé. Bien que j'ai partagé plusieurs détails dans des lettres adressées aux membres, j'ai pensé qu'il serait utile de vous raconter toute l'histoire ici, à vous tous. En 2012, lors d'un examen médical de routine, mon médecin a détecté un souffle au cœur et m'a indiqué un cardiologue. Les examens ont révélé que j'avais une valve aortique bicuspide, ce qui signifie que la valve ne comportait que 2 feuillets au lieu des 3 habituels. Cette condition ne touche qu'environ 1 à 2% de la population. À l'époque, cela ne posait pas de problème, bien que mon médecin ait recommandé une surveillance périodique de cette situation. J'ai continué à effectuer ces contrôles jusqu'en 2024, lorsque les médecins ont constaté un rétrécissement de la valve causé par des dépôts de calcium. Au début de cette année, le rétrécissement avait atteint un stade critique et un remplacement de la valve a été recommandé. Au départ, les médecins ont suggéré une procédure moins invasive, approuvée en 2015, consistant à insérer une nouvelle valve à l'intérieur de l'ancienne par une artère principale. La convalescence après cette intervention ne prend généralement qu'un jour ou 2. J'espérais que cela fonctionnerait pour moi. Cependant, lors d'une consultation le 27 juin, le chirurgien m'a expliqué que mon état ne me permettait pas de bénéficier de cette méthode et qu'une chirurgie à cœur ouvert serait nécessaire pour remplacer la valve. Comme j'étais par ailleurs en excellente santé, le chirurgien était confiant quant à la réussite de l'opération. Ainsi, le 1er juillet, j'ai subi l'intervention chirurgicale. Plus de 8 heures plus tard, je me suis réveillé dans ma chambre. Mais je n'avais aucune douleur, ce qui était une très bonne chose. Et en fait, je n'ai ressenti aucune douleur à aucun moment de tout ce processus. L'opération a été un succès et l'on m'a dit que j'aurais besoin d'environ 12 semaines de convalescence et de rééducation. Le 5 septembre, j'ai terminé mon programme de rééducation et j'ai été autorisé à reprendre le travail. Le chirurgien m'a assuré que mon cœur fonctionnerait désormais mieux que jamais. « Mieux que jamais », a-t-il dit. Je suis retourné au travail le 9 septembre et depuis, j'ai repris des journées complètes. Dieu a été très miséricordieux envers moi et je crois sincèrement qu'il est intervenu en ma faveur. Je tiens à vous remercier pour vos prières, vos cartes, vos courriels, vos messages, vos appels téléphoniques, plus d'un millier. Votre soutien a été important pendant ma convalescence. Avec le recul, l'opération semble un rêve, quelque chose qui n'a jamais eu lieu. L'intervention a été la partie la plus facile. La convalescence a été longue et fastidieuse, mais j'ai laissé ces moments derrière moi. Je me sens plus fort chaque jour et je me concentre sur les jours saints. Il y a 2 jours, nous avons célébré la fête des trompettes et jeudi prochain, nous observerons la fête des expiations avant que nous ne nous réunissions tous dans nos sites respectifs pour commencer la fête des tabernacles. J'encourage chacun à prendre le temps de méditer sur les Écritures en rapport avec ces jours. Reportons-nous à Lévitique chapitre 23, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Vous savez, certains prétendent que ces fêtes ont été abolies sous la Nouvelle Alliance, mais l'Écriture n'en fournit aucune preuve. Au contraire, le Nouveau Testament affirme leur observance continue. Christ ne les a pas changées. Et même à la conclusion du Nouveau Testament, elles restent en vigueur, tout comme elles l'étaient dans l'Ancien Testament. Ainsi, nous avons une fondation solide pour observer les sept fêtes annuelles de Dieu. Dans un mois, nous aurons accompli un nouveau cycle complet. Observer les jours saints est à la fois enthousiasmant et profondément significatif. Je souhaite donc à vous tous une saison de fêtes joyeuses et spirituellement enrichissantes. Enfin, je souhaite partager avec vous tous une nouvelle enthousiasmante. Le jeudi 25 septembre, nous avons organisé la cérémonie de la première pelletée de terre, creusée à l'emplacement de notre nouveau centre éducatif, ici à McKinney. Après la construction de notre bâtiment administratif en 2019, nous avons commencé à planifier la deuxième phase des travaux, à savoir un auditorium et un centre éducatif pour l'Église. Voici quelques images vidéo de la cérémonie que je souhaite partager avec vous tous. Je voudrais commencer par vous souhaiter à tous la bienvenue à cette cérémonie très spéciale. Vous savez, parvenir à cette date a été un véritable test de patience, c'est le moins que l'on puisse dire, mais nous y sommes arrivés. Nous sommes ici maintenant. Il y a plus de 3 ans, au printemps 2022, nous avions fait appel à Alliance Architecte pour concevoir notre second bâtiment, un auditorium doté d'un centre éducatif pour l'Église de Dieu. Alliance avait déjà conçu notre bâtiment administratif en 2017. Notre relation avec Alliance remonte donc à plus de 8 ans. Nous avons posé la première pierre de notre bureau le 7 janvier 2018 et nous avons emménagé dans le bâtiment en mars 2019, il y a maintenant plus de 6 ans. En 2017, nous avons conclu un contrat avec Island Builders pour la construction de notre bâtiment administratif. Bien que nous ayons fait appel à la même agence d'architecture pour ce second bâtiment, phase 2, comme nous l'avons appelé, nous avons choisi un constructeur différent. Après avoir rencontré 5 constructeurs, y compris Island, nous avons finalement choisi l'entreprise Michael Walker comme maître d'œuvre. Pour commencer cet après-midi, je souhaite présenter les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans la conception et la construction de ce bâtiment. Permettez-moi donc de commencer par Alliance Architecte. Nous avons Scott Meyer, associé principal, qui est responsable de ce projet. Scott était également le principal responsable de notre premier bâtiment. Rhiannon Bolin, qui a participé à une grande partie de la conception intérieure en collaboration avec Nancy Dubic. Nous avons Zachary Weldy, qui a travaillé sur les deux projets. Zachary est le directeur associé du design. Nous avons Scott Frankowiak, qui a été très impliqué dans notre phase 2. Et enfin, nous avons Michael Walker, qui est également présent ici cet après-midi. Josh Kubala, président et propriétaire de Michael Walker. Cathy Ambrick, vice-présidente de Michael Walker. Steve Hutchinson est le directeur de la stratégie et Kelly Bradbury, le surintendant principal. Nous connaissons également Kelly depuis 2017 et il n'a pas changé depuis notre première rencontre. Mais cela fait aussi maintenant presque 8 ans. Je tiens à les remercier pour la création d'un excellent environnement de travail. Les deux entités ont été extrêmement souples dans leur façon de travailler avec nous. Ceci est notre second bâtiment et s'il y a une leçon à tirer de la première construction, c'est l'importance de bonnes relations et la contribution de ces professionnels capables de nous guider à travers ce qui s'avère être une expérience d'une année entière. Je m'étais dit, après le premier bâtiment, que j'en avais fini. Que je ne referais jamais cela. Les 4 dernières années m'ont fait changer d'avis. Nous avons été grandement bénis au point que tous les éléments se sont réunis pour construire un auditorium qui servira également de centre d'éducation pour l'œuvre mondiale de l'Église. Et nous avons pu réaliser cela sans impacter l'expansion de l'œuvre de l'Église. Nous avons près de 300 congrégations dans 40 pays à travers le monde et le besoin d'une éducation biblique et spirituelle n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui, compte tenu du monde dans lequel nous vivons. Des portes incroyables se sont ouvertes pour l'Église au cours des dernières années. Des portes que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant se sont ouvertes pour nous. Nous commençons ce projet avec une grande confiance, convaincus que nous faisons ce qui est juste pour l'avenir de l'Église. Nous croyons que ceci est en soi une porte ouverte que nous sommes plus que prêts à franchir. Mais nous ne tenons rien pour acquis et nous dépendons de Dieu pour nous guider et nous montrer sa volonté. Notre parcours en tant qu'organisation a commencé en décembre 2010, après plus de 2 années de tourmente au sein de notre précédente association. En tant qu'organisation, nous avons officiellement débuté le 23 décembre 2010. Nous n'avions ni employés, ni biens lorsque nous avons commencé.
Étant nouveau, nous n'avions aucune référence, aucun arrière-plan financier, même pour louer un bureau. Et de nombreux propriétaires d'immeubles nous ont refusé la location et ne voulaient pas nous louer parce que nous ne pouvions pas fournir 5 années de bilan financier. Ainsi, pendant la première année, en 2011, nous avons tous travaillé depuis nos domiciles. Puis, en 2012, nous avons emménagé dans un ensemble de bureaux à Alliance. Ensuite, nous avons intégré notre immeuble de bureau ici en mars 2019, soit 7 ans plus tard. Nous voici aujourd'hui, 15 ans après nos débuts très modestes en 2010, en train de creuser la première pelletée de terre pour un nouveau bâtiment. En 2017, nous avons racheté 30 hectares de terrain et dès le début, notre intention était claire. Un jour, utiliser tout ce terrain pour servir l'église. Notre besoin immédiat était d'avoir un bureau pour accomplir notre travail et enseigner nos étudiants à l'Institut du Fondement. Nous avions besoin d'un studio pour réaliser des enregistrements et poursuivre la prédication de l'Évangile. Cela a été accompli avec notre premier bâtiment, mais il nous manquait encore quelque chose. Cette mission ne consiste pas seulement à prêcher l'Évangile à un monde en détresse, mais aussi à former notre ministère, nos membres et le monde en général. Nous avions besoin d'une installation qui servirait de centre éducatif. Aujourd'hui, nous creusons la première pelletée de terre en vue de ce second bâtiment qui remplira cette fonction essentielle. Nos programmes éducatifs ont rapidement été relégués au second plan par nos productions médiatiques, peu de temps après l'ouverture du nouveau siège central. Au fil des années de notre existence, nous avons développé des programmes éducatifs pour le ministère, les membres et la jeunesse. Notre projet était de regrouper nos programmes en une seule structure, capable d'accueillir à des fins éducatives toutes les tailles de groupes, allant d'une douzaine de participants jusqu'à 400 ou 500 personnes. Et nous souhaitions un lieu central pour les assemblées du sabbat et des jours saints, pouvant accueillir 500 personnes et convenant à cette région en particulier. Et en plus d'accueillir nos programmes éducatifs, cela libérerait également de l'espace dans les bureaux, pour un département des médias en expansion et pour un espace de stockage dont nous avons grandement besoin. Le nouveau bâtiment rendra possible un certain nombre d'activités que nous ne faisions qu'imaginer il y a quelques années. Les assemblées du sabbat et des jours saints, les éventuelles assemblées spéciales combinées, les programmes éducatifs pour la jeunesse, les jeunes adultes, les adultes, le ministère, ainsi que les cours et les programmes sociaux de l'Institut du Fondement. Dans ce bâtiment, nous augmenterons notre potentiel pour prêcher l'Évangile et prendre soin des frères et sœurs. Dans le psaume 127, verset 1, nous recevons nos instructions en ce qui concerne l'implication de Dieu. Le verset dit très simplement, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel me garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Notre désir est de ne jamais devancer Dieu. Nous recherchons sa direction et sa main dans tout ce que nous faisons. Ce bâtiment ne fait pas exception. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, nous lisons au sujet de la construction du second temple. Rappelez-vous que le temple de Salomon, que l'on pourrait qualifier de l'édifice le plus fabuleux jamais construit, fut achevé au Xe siècle avant notre ère. Rien que leur contenu dans ce bâtiment était estimé à plus de 34 tonnes. Ce premier temple fut détruit en 585 avant notre ère par l'armée babylonienne et il ne fut reconstruit qu'en 515 avant notre ère, à l'époque de Zorobabel. Ce bâtiment, le second, était bien moins impressionnant que le temple de Salomon, qui était d'une magnificence incroyable. Ceux qui avaient vu le temple d'origine pleurèrent, tant ils étaient attristés de voir un édifice aussi inférieur. Zacharie les réprimanda pour leur attitude. « Comment pouvez-vous considérer comme insignifiante ou inférieure des choses dans lesquelles Dieu est impliqué ?» Au verset 10 du chapitre 4 de Zacharie, « Ceux qui méprisaient. » Le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les yeux du Seigneur qui parcourent toute la terre. Avec l'implication de Dieu, il n'existe pas de petites choses. Nous prions pour que Dieu bénisse ce projet, afin qu'il devienne un outil pour accomplir son œuvre à travers le monde. Alors maintenant, si tout le monde veut bien venir se rassembler ici et s'aligner devant la pelleteuse, nous allons symboliquement creuser un peu de terre et après cela, nous irons à l'intérieur célébrer cette journée vraiment merveilleuse.
La cérémonie de cette première pelletée de terre a été suivie d'une réception dans l'espace de pause de l'Institut du Fondement en cette journée magnifique. Après près de 4 années de préparation, nous sommes ravis de commencer ce projet. Veuillez le garder dans vos prières, en demandant la bénédiction et la direction de Dieu alors que nous avançons. Nous prévoyons d'achever le bâtiment à l'été 2026. Eh bien, ce sera tout pour le moment de notre côté. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ceci est le dernier numéro d'À propos, avant la fête des tabernacles. Je vous souhaite un merveilleux sabbat et de très belles fêtes. Je souhaite à chacun d'entre vous une fête des tabernacles et un dernier grand jour, véritablement significatif et agréable. La fête de cette année aura une signification toute particulière pour ma famille et moi, compte tenu de tout ce qui s'est passé dans nos vies au cours des dernières semaines. Dieu a été miséricordieux envers nous, et je ne veux jamais tenir cela pour acquis. Je prie pour qu'il accorde le même réconfort et la même miséricorde à chacun d'entre vous, en particulier ceux qui font face à des problèmes de santé personnelle ou à des épreuves d'une autre nature. Comme je l'ai écrit dans ma récente lettre aux membres, Christ a promis qu'il serait toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, au revoir et à bientôt.